20h30 ici à Washington DC, 1h30 en temps universel. Bonsoir et bonjour et bienvenue sur VOA Afrique. Alexandrine Rollognon à ce micro. Cette édition spéciale est consacrée à l'allocution du président des États-Unis Donald Trump devant une session conjointe du Congrès des États-Unis. Le président prononcera son discours dans quelques instants dans la salle de la Chambre des représentants du Capitole. La session conjointe sera présidée par le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, accompagné de Dedi Vance, le vice-président en sa qualité de président du Sénat. Entre la nécessité de mettre fin aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, les droits de douane imposés à certains pays et la réduction des effectifs du gouvernement fédéral américain, le discours du président pourrait porter sur plusieurs sujets liés à la politique américaine et étrangère. Pour un décryptage de ce discours, je suis ici en studio avec Timothée Donangmai, chef du service francophone de la VOA. Bonsoir Timothée.
Bonsoir.
Nous avons via Skype notre journaliste et analyste politique René Lek. Bonsoir René.
Bonsoir Alexandre.
Et au téléphone ici aux États-Unis, Mohamed Mbodge, professeur d'histoire au Manhattanville University. Il est de New York. Bonsoir professeur Mbodge. Nous avons également dans le Maryland ici Fleury Kamga, un citoyen américain, opérateur économique, qui nous rejoint pour ce débat. Bonsoir monsieur Kamga.
Bonsoir, madame.
Alors, avec vous, nous allons essayer de comprendre l'importance de cet exercice et analyser les points marquants du discours du président Trump. Et nous sommes accompagnés d'un traducteur ce soir pour vous faire vivre ce discours en direct. Bienvenue. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. D'entrée, il faut préciser qu'il ne s'agit pas du discours traditionnel au Congrès désigné par l'expression « State of the Union », le discours sur l'état de l'Union, mais plutôt d'un point d'adresse, une adresse commune, comme on le dit, un discours aux deux chambres réunies du Congrès. Quel est l'objectif de cet exercice, Timothée Donangmai?
Alors, il faut dire, Alex, que c'est une sorte de prise de contact du nouveau président américain avec les législateurs du pays. Vous l'avez dit, ce n'est pas le discours sur l'état de l'Union qui interviendra l'année prochaine lorsque le président Trump aura passé un an à la Maison-Blanche. Cette fois-ci, c'est un discours aux deux chambres réunies du Congrès. Il faut dire que ce sera l'occasion pour le président Trump de célébrer le triomphe des républicains aux élections en novembre, les républicains qui contrôlent maintenant la Chambre, le Sénat et la Maison-Blanche. Ce sera aussi l'occasion pour le président Trump de parler de certaines de ses priorités et d'établir un bilan de ce qui a été déjà accompli en un peu plus d'un mois, notamment la situation à la frontière sud, la frontière sud qui est pratiquement verrouillée. Il y a aussi les questions économiques et tout le reste. Donc, c'est un discours qui permettra d'en savoir plus sur les projets du président Trump pour le pays.
Vous l'avez dit, ce discours est très attendu après l'échange houleux entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et 24 heures après l'entrée en vigueur d'une nouvelle série de droits de douane à l'encontre du Canada et du Mexique. Aucun doute que ces sujets seront au menu du discours du président ce soir. René Lek, quels sont selon vous les thèmes majeurs que le président pourrait aborder?
Ah, écoutez, je pense que vous les avez énumérés. Hein, le premier sujet, ça sera la question de la guerre commerciale. 25% de tarifs douaniers sur les produits importés ici du Canada et du Mexique, 20% pour les produits chinois. Il va certainement en parler, expliquer sa logique aux Américains. Donc ça, c'est vraiment peut-être l'un des premiers sujets qu'il va aborder. Le deuxième, vous en avez parlé, je les donne en fait pas tellement par ordre chronologique, mais par ordre d'importance, la question de la paix ou de dialogue de paix, en tout cas d'un dialogue pour arriver à la paix en Ukraine, dans le conflit russo-ukrainien. Donc ça, c'est une grande question, surtout après, comme vous l'avez dit, le clash qu'il y a eu à la Maison-Blanche. Troisième sujet, plus de questions politiques internes, la question de l'immigration, la situation au niveau de la frontière au sud. Peut-être même va-t-il parler de la situation à Guantanamo, on verra ça. Et bien entendu, je crois que là où va peut-être passer peut-être le plus de temps, ça va être la question de la réduction du budget fédéral et notamment de la réduction des effectifs dans le gouvernement et de la suppression de certaines agences, de certains projets afin de réduire les dépenses de l'État. Donc je crois que toutes ces questions-là sont des questions qu'il va aborder. Alors peut-être qu'il abordera également la question de l'exploitation forestière, parce que c'est un sujet qui le préoccupe beaucoup. Il voudrait augmenter l'exploitation sur les terres fédérales. Alors il était question qu'il en parle. Je ne sais pas si au finish il va en parler ou pas. Et le dernier point que j'ai noté ici, Alexandrine, c'est la question de ce que certains appellent l'antisémitisme sur les campus universitaires, et notamment la réduction, voire la suppression des fonds fédéraux pour certaines universités, en commençant déjà par Columbia University à New York.
Et le président aura un peu plus de 50 minutes pour faire le tour de toutes ces questions selon le programme établi. Donald Trump, rappelons-le, vient d'effectuer 6 semaines en tant que président des États-Unis. 6 semaines marquées par des décrets qui ont bouleversé les politiques intérieures et extérieures des États-Unis. Historiquement, pour professeur Mbodj, quels sont les enjeux politiques d'un tel exercice et quels seront ceux du discours de Trump ce soir selon vous?
Merci. Tout d'abord, George Washington a inauguré la série et certainement pendant un bon moment, il a battu le record de ses interventions à partir de 1790. Mais c'était aussi à un moment où il n'y avait pas, où il n'y avait pas la formalisation de l'adresse sur l'état de l'Union, etc. Donc c'était plus une sorte de courtoisie et quelquefois aussi à l'heure des crises. Et surtout que le déplacement n'était pas très facile à l'époque. Donc Washington a profité un tout petit peu de certaines circonstances pour faire ses adresses. Alors, cette pratique a été continuée, mais avec, après lui, c'est certainement Adams qui l'a le plus pratiqué. Et puis, c'est tombé en désuétude. Hein. C'est tombé en désuétude pendant plus d'un siècle, en fait, jusqu'en 1913, où c'est Wilson qui a redémarré la série. Et maintenant, ça s'est accéléré. En fait, ces dernières années, et où le paysage médiatique s'est en devenant plus compliqué, et le président trouve un certain avantage à s'adresser directement à la nation plus d'une fois en dehors de l'adresse sur l'état de l'Union. Et une sorte de tradition s'est établie aussi que dès sa prise de fonction, quelques semaines, 1 ou 2 mois après sa prise de fonction, le nouveau président, disons, établit un tout petit peu la ligne de marche de sa présidence. Et je crois que mes deux collègues ont déjà dit certainement ce que nous pensons être le contenu de la présentation du président Trump, mais il faut aussi se rappeler que c'est quelqu'un qui aime la surprise, c'est quelqu'un qui aime tenir, disons, son audience sur les pouces, et donc on peut s'attendre à ce qu'il dévie, à ce qu'il change, disons, de ses thèmes et qu'il y introduit d'autres. Ne serait-ce que parce que, au fond, après un départ tonitruant, d'ailleurs qui se continue avec des décrets, avec des actes unilatéraux, avec des discours forts, avec des présentations de presse très orchestrées et très remarquées, disons, Trump n'arrive pas à décoller d'une certaine façon. Tout d'abord, c'est certainement dans l'époque moderne. Déjà, on peut constater que beaucoup de personnes ne le suivent pas du tout. Donc, une sorte d'incapacité à entraîner l'enthousiasme du peuple américain. Je ne parle pas, bien entendu, des républicains, mais le peuple d'une manière générale. Donc, ce serait peut-être l'occasion de dire aux Américains, je ne suis pas le président des républicains, je suis votre président à tous. Et je crois que ça aussi, ça doit être un des axes de son discours de ce soir.
Alors, le président s'exprimera dans la salle des séances du Capitole, qui est suffisamment grande pour accueillir les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que les membres de la Cour suprême et du gouvernement du président Trump. Mais qui d'autre peut-on retrouver ce soir dans cette salle, M. Donald? Vous avez une idée de qui participera à ce discours?
Bon, en fait, il y a tous les responsables politiques américains, les législateurs et aussi des invités tant des républicains que des démocrates. Habituellement, chacun vient avec un invité, quelqu'un dont la vie illustre une situation particulière. Donc, il y aura beaucoup de monde ce soir.
Alors, j'ai lu quelque part que parmi les membres du gouvernement qui participent à cette séance, il y a un membre du cabinet qui est toujours absent, qu'on désigne par le survivant désigné, qui est cette personne qui est délibérément exclue, afin que quelqu'un puisse assumer la fonction de président en cas de catastrophe ou d'accident de masse. Peut-être qu'une anecdote, si le professeur Mbodj, vous avez une idée de cet aspect?
Donc, il y a toujours, je crois que c'est le secrétaire of Treasury ou bien le secrétaire d'État, je ne me souviens plus de la nomenclature, de la hiérarchie du cabinet américain, mais c'est un personnage qui devrait pouvoir assumer les fonctions de président si d'un coup le président, le vice-président, et le président de la majorité donc au Congrès disparaissait effectivement donc on aurait dans l'ordre constitutionnel donc quelqu'un pour devenir ipso facto le président de la République donc pour la continuité des institutions. Mais je ne me rappelle pas tout de suite exactement quel est le poste de ce monsieur dans le cabinet. Je crois me souvenir que c'est le secrétaire d'État, mais ça peut être aussi le Treasury Secretary.
On peut déjà entendre et voir un peu l'ambiance qui règne dans cette salle où le président doit se prononcer dans quelques petites minutes. Fleury Kanga, vous êtes un citoyen américain, vous avez observé ces premières semaines du mandat de Trump. Que retenez-vous de ces premières décisions et surtout, qu'attendez-vous de ce discours ce soir?
Ben, ce soir, merci de me donner la parole. Ce soir, j'attends du président, n'est-ce pas, de rassurer la population américaine et de leur rappeler qu'il a reçu un mandat pour diriger ce pays et qu'on doit que les autres, que les démocrates doivent suivre le train. J'ai entendu le professeur tout à l'heure dire que le président Trump a des difficultés à faire suivre la population américaine. Je tiens à rappeler que les sondages positifs pour Trump sont les plus hauts de toute sa présidentielle. Donc ce soir, j'espère que le président va marteler sur tout ce qu'il a déjà fait. Déjà, le premier jour, il a annoncé qu'il n'y a que deux genres aux États-Unis. C'est déjà beaucoup de choses pour nous. School choice, c'est très important. Et sur le plan international, USAID, particulièrement pour les Africains, le fait de bannir cette institution ou alors de limiter leur action dans le monde, c'est quelque chose de très positif pour l'Afrique et il faut que le président marque cela. Nous avons vu un président qui est en train d'aller sur tous les fronts, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Ukraine, il est en train de faire des efforts pour ramener la paix dans le monde. Et à l'intérieur, ici aux États-Unis, nous voyons, nous avons dit, on a passé, il y a une loi qui est déjà passée sur les taxes qui limitent les taxes sur les types, ceux qui limitent les taxes sur la sécurité sociale, qui limitent les taxes sur les otages. C'est quelque chose de très positif pour les Américains.
Donc, ce sont
Et je
les
veux
points
même
que vous
parler
avez
ce soir, ce que
retenus.
d'autres
On
est
a,
en train de
on
faire.
va, on va malheureusement, on n'a pas assez de temps, malheureusement, pour rentrer dans les détails. Monsieur Kanga, vous avez cité quelques points, les points qui vous ont marqué durant ces 6 premières semaines du mandat du président Trump. Ce qui m'amène à parler plutôt de l'impact de ce discours ce soir. Monsieur Lick, est-ce que cet exercice a réellement un impact sur l'opinion publique et les décisions politiques de manière générale?
Politique en tant que telle, mais sur l'opinion, il n'y a pas de doute. Vous savez, c'est un des événements les plus retransmis ici aux États-Unis. C'est l'un des événements les plus suivis, donc en direct déjà, et ensuite maintenant, pendant 2, 3 jours, on peut s'imaginer que la presse, que ce soit la presse écrite, les presses radio, les télévisions vont en parler. Donc, il est évident que ça a un impact important sur la formation de l'opinion publique dans un sens ou dans un autre, selon les questions politiques que le président veut faire passer. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur les politiques publiques en tant que telles? Non, parce que elles sont déjà plus ou moins définies, mais on peut le voir un peu comme ça, parce qu'on peut estimer que s'il y a une réaction trop négative de l'opinion à une des questions, par exemple, qui a été abordée, il y aura certainement en tout cas un ajustement, ne serait-ce qu'au niveau tactique. Mais d'un point de vue de l'impact sur l'opinion, sur de partage d'informations, d'explication des politiques. C'est sûr que c'est un discours extrêmement important, Alexandre.
Alors, traditionnellement, le parti opposé, ce soir, le Parti démocrate, va prononcer un bref discours en réponse au discours du président. Et cette année, c'est la sénatrice démocrate du Michigan, Elissa Slotkin, qui prononcera ce discours. À quoi doit-on s'attendre de la part des démocrates ce soir?
Alors, Alex, il faut d'abord dire que la sénatrice Slotkin est à son premier mandat au Sénat. Elle a gagné son siège en novembre en battant un républicain dans un État pivot remporté par le président Donald Trump en novembre, dont les démocrates essaient de...
Donc son choix n'est pas anodin.
C'est pas anodin. Les démocrates voient en elle une étoile montante du parti et aussi quelqu'un qui a une formule pour gagner dans un État très compétitif. Donc, on s'attend à ce qu'elle avance le programme des démocrates. Il faut dire qu'elle est à 48 ans, très jeune, et qu'elle est une ancienne analyste de la CIA, donc quelqu'un qui est versé dans les questions de sécurité, etc. Mais aussi, elle va parler de l'économie, le Michigan étant un État, l'État de l'automobile américaine, l'automobile qui va sûrement être affectée par les tarifs douaniers et tout cela. Donc, c'est un aspect de la question qu'elle va sûrement évoquer ce soir.
Professeur Mbodge, je reviens à vous. Est-ce qu'on peut établir des parallèles entre ce début de mandat et celui d'autres présidents américains, selon ce qu'on a pu observer jusque-là en termes de prise de décision?
Non, je pense que la rafale de décisions prises par Trump est inégalé. Je ne crois pas que ce soit possible de le comparer. On peut le comparer à son premier mandat où là aussi il avait démarré très fort, rapidement. Donc il s'était embourbé dans des querelles sans issue, et ensuite les institutions judiciaires et surtout le Sénat étaient capables de mettre la pédale douce sur beaucoup de choses qu'ils voulaient pousser, qu'ils voulaient passer en avant. Donc non, je pense que c'est inédit cette façon de faire, et d'ailleurs c'était annoncé durant la campagne par ses aides comme Bannon, qui disait que le nouveau régime, le nouveau président va annoncer des mesures, des dizaines de mesures par jour, non seulement des mesures qui correspondent, disons, à sa plateforme, à ce qu'il avait promis de faire, mais aussi qui est une sorte d'attaque de tous côtés, tout azimut, contre ses ennemis éventuels, qui vont devoir choisir de s'opposer sur tel ou tel point, ou tel autre point, tellement il y a des mesures à combattre, des mesures à dénoncer, des mesures à s'opposer, ce qui fait que peut-être certaines de ces mesures vont passer, même sans que les gens se rendent compte qu'il les a prises donc dans le feu de l'action. Donc c'est un peu cette tactique qui semble être la sienne et qui justifie le nombre extrêmement important de décisions prises par cette nouvelle administration, et qui même quelquefois prend des décisions pour pouvoir provoquer peut-être une décision de justice qui lui permette d'aller d'ailleurs un peu plus loin.
Monsieur Lay, qu'est-ce qu'on peut se permettre une petite évaluation sur les 6 premières semaines de Donald Trump? Je me souviens de ce qu'on faisait comme prévision lors de la nuit électorale et aussi lors de la prestation du serment, de ce que serait le programme du président, surtout en matière de l'immigration et sur d'autres politiques en ce qui concerne la politique nationale. Comment évaluez-vous ces 6 premières semaines?
Mon ami le professeur Mohamed Mboud, c'est la vitesse remarquable avec laquelle s'est mis en place, au fond, ce que l'on peut commencer à percevoir assez clairement comme une politique de rupture importante. Et cela, c'est lié au fait que, il avait quand même eu une première expérience d'un mandat de 4 ans. Il a eu 4 autres années pour se préparer, en quelque sorte. Et vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour son premier mandat, il a mis du temps, il a passé beaucoup de temps, même dans les négociations pour les pour les postes. Je me souviens notamment celui de quand on pensait à Mitt Romney pour le, comme secrétaire d'État, donc responsable des affaires étrangères. Tout ça, ça avait mis du temps. Il y avait les fameux dîners, etc. Cette fois-ci, on n'a pas eu tout ce temps-là d'attente. Ça a été très, très vite parce qu'ils avaient en place, il avait en place déjà sa liste. Il savait qu'il allait mettre en place. Il avait ses ordonnances déjà rédigées, déjà prêtes, et il allait très, très vite. Et effectivement, au point même que ça a donné le tournis. Et c'est une stratégie qui semble bien marcher parce que, quelque part, cela a un peu neutralisé, pris de court les démocrates qui n'arrivent pas trop à savoir comment réagir à toutes ces décisions-là. Et au fond, il y en a tellement, il y a tellement de choses qui sont en mouvement et qui sont en rupture, même parfois, qu'il est difficile de suivre. Donc, d'un point de vue politique, ça semble être payant.
Ces 6 semaines ont été intenses, Timothée, il faut le reconnaître.
Oui, tout à fait. Et comme l'a souligné René Lec, le président Trump a adopté comme stratégie d'inonder la scène politique d'une série de mesures dans tous les domaines, si bien que les démocrates ont un peu perdu le pied, ils n'ont pas tellement idée de comment répondre à cette furie de mesures. Et donc ça a été 6 semaines très intenses et 6 semaines qui voient aussi des impacts sur notamment les fonctionnaires fédéraux dont beaucoup ont perdu leurs emplois du fait des suppressions de postes en vue de maîtriser la dette nationale, etc. Donc ça a été 6 semaines d'intense activité pour le président Trump et son équipe.
Traditionnellement, cet exercice, ce discours devant le Congrès, se déroule souvent une année après la prise de fonction du président, selon ce que j'ai compris. Mais c'est le président Donald Trump prévoit le fait ce soir un peu plus tôt. Est-ce que ce soir, on peut s'attendre à des annonces plutôt que de revenir sur les décisions prises jusque-là?
Non, en fait, le discours de ce soir est bien prévu au programme, sauf qu'il intervient simplement avant... Au début du mandat du président Trump, dont l'année prochaine, ce sera le premier discours sur l'état de l'Union.
Est-ce que c'est le moment de laisser place au discours où on attend un tout petit peu avant de laisser place? On continue de vivre l'ambiance en direct de la salle où le président Trump devrait monter sur l'estrade dans quelques petits instants. Pour ce débat, M. Kanga, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous pensez que les pays africains pourraient s'inspirer de cet exercice? Est-ce que vous avez connaissance de certains pays qui s'adonnent à cet exercice?
À ma connaissance, je ne connais pas un pays particulier qui s'adonne à de tels exercices. Je pense que c'est une culture particulière des États-Unis.
Pourquoi, selon vous, l'Afrique devrait s'intéresser à ce second mandat de Donald Trump?
Parce que, à mon avis, je pense que l'Afrique a envie qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse travailler seul. L'Afrique n'a plus envie de paraître comme un bébé qui veut du biberon. Et quand un président vient t'empêcher de venir chez vous tout le temps, c'est le moment pour les Africains d'en profiter pour se libérer totalement. C'est le plus important. Et nous avons toujours vu des présidents américains qui sont en train d'apporter des projets de dons aux États-Unis, aux Africains, l'aide étrangère. Nous devons nous éloigner de l'aide étrangère parce que c'est exactement ce qui nous pousse à la dépendance totale.
Je vais demander l'avis de mes co-débatteurs.
Oui, Alex, il faut dire qu'on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'Africains applaudir la décision du président Trump de supprimer l'aide internationale. Ils se disent que ce sera une occasion pour les Africains, pour l'Afrique, de compter sur elle-même, sur ses ressources, et non pas attendre que l'aide internationale. Donc, pour certains Africains, c'est une bonne chose que le président Trump ait pris cette décision.
René Lec, vous nous suivez? Vous voulez donner un avis sur cette question?
En fait, j'allais réagir un peu, Alexandrine, sur votre question sur cette pratique-là de State of the Union. L'équivalent que je vois un peu dans certains pays africains où il y a un premier ministre, c'est également le cas en France, c'est ce qu'on appelle la DPG, la Déclaration de politique générale, qui est faite en général par le premier ministre devant l'Assemblée nationale. Et c'est un devoir constitutionnel pour, dans certains pays, en tout cas dans le cas du Sénégal par exemple, c'est inscrit dans la Constitution, le Premier ministre doit présenter, doit faire une déclaration de politique générale devant les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Donc c'est l'équivalent, ce serait l'équivalent le plus proche que je vois.
On aperçoit le vice-président Jelly Vince qui est déjà sur l'estrade et il sera rejoint dans peu par le président des États-Unis, Donald Trump, qui va prononcer son discours dans quelques petits instants. Après le discours du président, ce sera au tour des démocrates de prendre la parole avec une réplique donnée par la sénatrice Elisa Slotkin. Nous continuons ce débat en attendant le discours. Professeur Mbodge, est-ce que vous pensez que des pays africains pourraient s'inspirer de cet exercice et pourquoi surtout?
Parce que ça, c'est typiquement, disons, dans mon ami René Lec vient de dire qu'il y a un certain parallèle, mais c'est le Premier ministre. Mais c'est aussi la tradition en Europe d'une manière générale, que ce soit les premiers ministres qui font ce genre de discours. Donc je ne pense pas que ce soit rare en Afrique. D'ailleurs, le premier ministre sénégalais vient de faire donc cet exercice devant le Parlement sénégalais. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinairement différent. Mais le président, effectivement, puisque c'est un régime présidentiel, se déplacer au Parlement pour faire ce discours. Et ça, c'est certainement quelque chose d'assez différent de ce qu'on a en Afrique, où souvent les présidents, malheureusement, ne se considèrent pas comme étant responsables devant l'Assemblée nationale. Et donc, de ce point de vue-là, ils font des discours durant les fêtes, ils font des discours durant les catastrophes, ils font des discours durant beaucoup de choses, mais souvent, ils ne les font pas en s'adressant à leur Parlement national. Pour revenir à l'aide, je crois que nous confondons beaucoup de choses. Certes, le principe de céder soi-même, que les États n'ont pas d'amis, etc., tout ça c'est bien valable. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, d'abord que l'aide, d'une manière générale, est infime, je dis bien infime, dans les transferts de fonds pour les pays africains. Donc, il n'y a rien de catastrophique. Tous les pays africains, l'absence de l'aide n'empêchera aucun pays africain de dormir, disons. Deuxièmement, la majorité de cette aide va dans le secteur de la santé. Et le secteur de la santé, ce qu'on avait compris, disons, d'une grande partie de cette aide, c'était plus de créer une sorte de barrage pour des épisodies, pour des épidémies qui viendraient de l'Afrique vers les pays développés, en particulier les États-Unis, et aussi un moyen de tester des médicaments ou des traitements en Afrique plutôt que de les faire ailleurs. Mais est-ce que c'est stratégique pour les pays africains? Certainement pas, sauf sur le plan de la santé et de la santé publique, que ça, certainement, beaucoup de pays africains vont devoir ajuster leur politique et financer leur santé publique. Mais à part la santé publique, il n'y a pas grand-chose dont les pays africains reçoivent des États-Unis.
Pour rester sur le même sujet, l'autre débat qui a agité les réseaux sociaux ces dernières semaines, c'est surtout la gratuité de l'aide. L'aide est-elle gratuite? Que gagnent les pays qui subviennent, qui investissent dans ces différents programmes dans d'autres pays plus vulnérables?
Oui, mais j'ai déjà dit que, par exemple, les programmes de vaccination, les programmes de recherche médicale, dont les résultats qu'elles font sont testés en Afrique, il ne faut pas se cacher la face, il ne faut pas se voiler la face. On peut y soulever des points d'éthique. C'est surtout de ce point de vue-là, et surtout la prévention de ces maladies tropicales dont on n'a pas une certaine maîtrise, et comme Ebola, etc., et faire en sorte que lorsque ces épidémies éclatent en Afrique, qu'elles ne se transmettent pas rapidement et détruisent, disons, beaucoup de vies dans les pays développés. Donc, c'est une aide intéressée de ce point de vue-là. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressée à sauver des vies africaines, c'est pas ça que je dis, mais on peut dire que ça sert à deux choses. Hein. D'une pierre, on peut bien tuer, on peut bien faire deux coups.
L'aide est-elle gratuite, à mon avis?
Bon, il faut dire que cette aide génère de la bonne volonté en direction des pays donateurs. Les Africains, dans une certaine mesure, apprécient cette aide. Et cette aide au développement vise aussi à créer des emplois sur place pour qu'il n'y ait pas cette fuite des populations vers les pays occidentaux, vers l'Europe, vers l'Amérique, parce que la situation économique dans les pays d'origine ne tient pas du tout. Donc, quelque part, cette aide vise aussi à retenir sur place, à créer les conditions qui permettront de maintenir sur place les jeunes Africains.
Monsieur Kanga, vous pensez que les pays qui bénéficient de cette aide, notamment les pays africains, seraient en mesure aujourd'hui de mettre en place d'autres programmes pour combler ce vide ?
Il faudra absolument le faire, Ça va être difficile, surtout lorsqu'on refuse de penser pour soi-même, mais il faudra absolument le faire. Et je tiens à rappeler ici que généralement, l'aide n'arrive même pas aux populations. C'est de l'aide qu'on donne à l'oligarchie pour les permettre de rester, de garder les pouvoirs. Généralement, cette aide n'arrive même pas au pouvoir. Et en ce qui concerne les médicaments et les vaccins, ça crée encore un autre débat. Ça crée un autre débat sur l'opportunité des vaccins même. Parce que nous avons compris les situations où les vaccins deviennent même dangereux pour nos populations. Donc, en ce qui me concerne, je suis totalement contre l'aide étrangère pour l'Afrique.
Et c'est l'une des décisions prises par le président américain de suspendre notamment l'aide étrangère. C'est l'une des décisions que vous retenez de ces 6 premiers mandats. Cette édition spéciale sur VOA Afrique est consacrée à la session conjointe entre l'exécutif et le législatif. Le président américain Donald Trump va se prononcer dans quelques petites minutes devant cette session conjointe. Et parmi les principaux dossiers figure le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais ce ne sera pas le seul conflit abordé, la guerre entre Israël et le Hamas. La situation à Gaza doit également avoir une place dans ce discours. Et en matière d'économie et de politique commerciale, les analystes estiment que le président va expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi d'imposer les droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine, entrée en vigueur il y a un peu moins de 24 heures. Peut-on parler un tout petit peu du ton du président ce soir? À votre avis, monsieur Lake, quel serait le ton de ce débat ce soir? De ce discours d'abord et la réponse des démocrates.
Oui, écoutez, c'est difficile d'anticiper avec Donald Trump. On ne sait jamais. Je pense qu'il va y avoir, il peut alterner entre un discours didactique, explicatif, un discours pour chercher à bien expliquer, même à convaincre, même dans une certaine mesure, et aussi un discours offensif. Je pense que la dimension offensive du discours sera peut-être l'élément principal du discours, parce que même dans l'action et même dans la justification de ses politiques, d'un point de vue du style, il le fera certainement avec son style habituel qui est offensif. Maintenant, il va dépendre également de comment vont se comporter les démocrates. Je sais qu'en interne, d'après les informations que j'ai eues il y a quelques heures, il y avait des discussions, ils n'étaient pas tous du même avis, certains voulaient plus ou moins protester, d'autres ne voulaient pas. Je sais que l'establishment, le leadership démocrate souhaitait que tout se passe très calmement, mais certains démocrates un peu à la marge tenaient à manifester un peu. Et si cela se faisait, à mon avis, Donald Trump réagirait très vigoureusement. Il se pourrait même, dit-on, au niveau de quelques indiscrétions de la Maison-Blanche, qu'il se pourrait qu'il quitte son texte pour réagir spontanément.
On a vu à l'instant la première dame Melania Trump qui a fait son entrée dans cette salle et à présent les membres du gouvernement qui rentrent dans cette salle et le président qui va suivre dans quelques instants pour son discours. Vous voulez dire un mot sur le ton que...
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Trump va célébrer la grande victoire des Républicains aux élections de novembre, et c'est clair que il va expliquer à l'Amérique qu'il y a, comme on le dit en anglais, un nouveau shérif en ville, un changement d'administration et que de nouvelles règles vont s'appliquer. Donc c'est des choses qu'il va expliquer et qu'il va s'expliquer. Il va expliquer avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie.
Et comme le professeur Bode le disait un peu plus tôt, c'est surtout pour montrer que je ne suis pas le président des Républicains uniquement, mais de toutes les nations, professeur Bode.
Oui, je pense que c'est une occasion rêvée pour donc rassurer une partie de l'opinion publique, parce qu'on peut très bien se méfier des sondages, mais par exemple, le taux d'approbation de M. Trump est seulement supérieur à son taux d'approbation lors de son premier mandat, au début de son premier mandat. Il est même inférieur à celui de Bush père au début de son mandat, dès le départ. Et nous ne sommes même pas à 2 ou 3 mois, disons, de sa prise de fonction. Il y a certainement de l'inquiétude à se faire là-dessus. Et quelque chose comme 45% des Américains interrogés disent qu'ils ne parlent pas de leurs problèmes, mais qu'ils s'intéressent à autre chose, comme Gaza, comme l'Ukraine, comme la Chine, le commerce avec le Canada. Ils ne l'ont pas élu pour ça. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'il s'explique aussi sur ces questions-là.
On a un peu évoqué l'impact politique que pourrait avoir ce débat et ce discours ici aux États-Unis. Mais ce discours est suivi également au-delà des frontières des États-Unis, notamment en Europe, avec qui la relation n'est pas très très bonne à l'instant, on peut le dire ainsi.
Oui, la relation avec les alliés européens des États-Unis n'est pas très bonne en ce moment. Sur la question de l'Ukraine, les Européens qui se sont mobilisés pour soutenir le président Zelensky d'Ukraine, alors que le président Trump, l'administration américaine, veut que le président Zelensky vienne à la table de négociation avec la Russie. Donc c'est cette question ukrainienne qui divise actuellement les États-Unis et leurs alliés européens.
Ce discours pourrait-il provoquer un quelconque changement entre l'Europe et les États-Unis, Monsieur Leek?
Je ne sais pas, ça va dépendre peut-être du contenu, mais je crois qu'il est clair, on a vu la réaction des Européens dimanche lors de leur rencontre, il est clair que l'Europe a décidé et comprend que son intérêt c'est de s'autonomiser par rapport aux États-Unis et que l'engagement de politique étrangère, notamment même l'engagement des États-Unis par rapport à l'OTAN, est un engagement qui est remis en cause aujourd'hui par Donald Trump. En tout cas, certains des aspects fondamentaux sont remis en cause aujourd'hui par Donald Trump. Et qu'au fond, on a affaire, Alexandrine, à une sorte de nouvel ordre mondial. Et je pense qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place, j'allais dire tout doucement, je ne sais pas si c'est si doucement que cela, mais en tout cas, je crois qu'ils ont pris bonne note. La grande question qui va se poser à eux, c'est est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de leur autonomisation ? Parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens économiques, financiers, mais surtout ils n'ont pas la technologie militaire, ils n'ont pas les capacités de production suffisamment importantes pour pouvoir remplacer toutes les contributions des Américains. Donc c'est là la difficulté dans laquelle ils sont. Donc je crois que les semaines qui vont suivre, les mois qui vont suivre, vont nous éclairer un peu plus sur la nature de la réponse européenne. Mais la réponse politique européenne, elle est très claire depuis dimanche dernier.
Monsieur Kanga, vous suivez cette actualité. Est-ce que vous voulez dire un mot sur tout ce qui se passe actuellement, comme sur les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine et les négociations entre les États-Unis et l'Europe notamment?
Bien sûr que lorsque vous avez un pays qui a pris l'habitude de venir financer dans toutes les organisations internationales où il appartient avec les Européens à financer à près de 70, 80, 90%. Lorsqu'un nouveau shérif arrive et qu'il dit que ça ne va plus se passer comme ça, les gens vont mal se porter. Mais la réalité, c'est que la position du président Trump sur l'Ukraine est suffisamment claire. Il ne peut pas en même temps vouloir négocier pour mettre fin à la guerre et dire des mauvaises choses sur le président Poutine. Ça s'appelle la diplomatie. On ne peut pas en même temps faire la diplomatie et s'attaquer à un adversaire. Mais en ce qui concerne l'intérieur des États-Unis, je n'attends pas beaucoup de choses sur le chiffre. Il y a une partie de la population qui ne changera pas. Quel que soit l'avancement que le président Trump fera, ils ont choisi de s'opposer à ce président par tous les moyens. Donc on n'attend pas beaucoup, mais j'attends du président Trump ce soir qu'il soit Trump, parce que c'est pour cette personne que nous avons voté et nous attendons ce caractère. Il faut qu'il tranche, que ce soit clair. J'ai reçu un mandat et vous allez me suivre. Ça doit être automatique.
J'ai reçu le mandat, vous allez me suivre, un mot, Timothée.
Oui, c'est en tout cas, c'est comment dire, la philosophie du président Trump. Il a reçu un mandat, et ce mandat, c'est de changer fondamentalement l'Amérique, et par tous les moyens, donc c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment.
Pour revenir sur le clash, ce que beaucoup de médias ont considéré comme un clash entre le président américain et son homologue ukrainien vendredi dernier à la Maison-Blanche, il y a eu plusieurs questions sur la diplomatie, ce que devrait être la diplomatie. Et pour beaucoup, cette discussion aurait pu avoir lieu derrière les portes closes et non devant les caméras.
Bon, et peut-être, mais certains ont aussi fait remarquer que pour le président Zelensky, l'anglais, c'est sa seconde langue et que peut-être certaines choses, certaines idées ont été perçues différemment par rapport à ce que lui-même pensait. Donc, quelque part, certaines choses se sont perdues dans la traduction, comme on dit. Mais il est clair que les discussions... Et le secrétaire d'État Rubio l'a dit que des discussions avaient déjà eu lieu en coulisses et que tout avait été convenu et qu'il s'agissait de la rencontre d'une simple formalité. Et donc, normalement, c'est ce qui se fait d'habitude. Donc, beaucoup de gens n'ont pas très bien compris pourquoi il y a eu cette rencontre heurtée à la Maison-Blanche.
Monsieur Lay, que vous avez suivi cette actualité, vous voyez le président Zelensky revenir à la table des négociations?
Oui, il a envoyé un message hier ou ce matin, je ne sais même plus, très long message disant qu'il était prêt à revenir à la négociation et que l'Ukraine était prête à engager un dialogue sérieux pour arriver à une résolution du conflit. Dans ce même message, il a remercié infiniment à plusieurs reprises, en étant même relativement explicite, le peuple américain, le gouvernement américain et ce que les États-Unis ont fait jusque-là pour soutenir l'Ukraine. Donc je crois que de son côté, il n'y a pas de doute qu'il cherche à exprimer, à montrer qu'il est dans un bon état d'esprit et qu'il est prêt à relancer la machine de coopération avec les États-Unis pour trouver une solution.
Pensez-vous que les discussions qui ont eu lieu à Londres ce week-end ont joué un rôle dans ce changement de ton ?
Je ne sais pas, parce que même dès qu'il est parti, dès qu'il a quitté la Maison-Blanche, si vous vous souvenez, il est intervenu un peu dans ce sens-là, en disant qu'il cherchait, qu'il voulait toujours la paix. Bon, c'est sûr que bon, quand il a fait son interview à Fox News, il n'était pas non plus à l'offensive, il n'était pas aussi conciliant que le message qu'il a envoyé hier ou ce matin, mais il n'était pas non plus à l'offensive, il est juste resté relativement ferme par rapport à ce qu'il considère être les intérêts de l'Ukraine et de l'Europe, pour également finir.
Le président des États-Unis va faire son entrée dans la salle et je pense que nous allons laisser la place maintenant pour la suite des événements et surtout pour ce discours tant attendu.
Oui, donc il faut dire que le président prendra son temps pour arriver sur le podium. Il salue des connaissances, des législateurs, des invités. Un peu un bain de foule, quoi, avant le grand discours.
C'est la première fois qu'il se retrouve devant une assemblée aussi importante depuis le début de ce second mandat.
Oui, tout à fait. Tout à fait. À part l'investiture, c'est la première grande rencontre de ce genre.
L'ambiance est plutôt bon enfant.
Oui, traditionnellement, c'est les républicains applaudissent le président. En tout cas, les gens de son parti l'applaudissent. Si c'est démocrate, ben c'est les démocrates qui applaudissent. Oui, le président Trump qui échange quelques propos, quelques plaisanteries avec des gens, certains qu'il connaît, d'autres qui sont là. Et contrairement à l'investiture, il fait moins froid aujourd'hui. Le jour de l'investiture, il faisait tellement froid qu'il a fallu organiser la cérémonie à l'intérieur
du Capitole plutôt que sur les marches.
Voilà, donc ce soir, il fait plutôt beau temps ici à Washington.
Vous m'entendez? Non seulement
René Lake, vous suivez l'avancée du président américain qui s'avance vers l'estrade à travers ce bain de foule en serrant les mains. Que pensez-vous de cette entrée?
Oui, écoutez, c'est classique, c'est traditionnel. Bon, il prend peut-être un peu plus de temps. Là, je vois qu'il discute avec les membres de la Cour suprême. Mais en fait, pour aller dans le sens de ce que disait Tim tout à l'heure, il y a aussi ce qui va être intéressant parce que c'est une tradition, la presse est spécialisée.
Il va prendre la parole, je pense qu'on va plutôt le laisser.
Thank you very much. Thank you very much.
Merci beaucoup.
It's a great honor. Thank you very much.
C'est un honneur. Je vous remercie. Monsieur le Président Johnson,
Vice President Vance,
Monsieur le Vice-président Vance,
the First Lady of the United
Première Dame
States.
Des États-Unis,
members of the United States Congress, thank
you very much. Chers membres du Congrès des États-Unis, merci infiniment. Et à mes concitoyens, les États-Unis sont de retour. Thank you. Il y a six semaines, j'étais sous le dôme du Capitole et j'ai annoncé l'aube d'une nouvelle ère pour les États-Unis. Et depuis lors, l'action a été sans relâche pour déclencher l'ère qui connaîtra le plus grand succès de l'histoire de notre pays. Nous avons accompli davantage au cours des 43 dernières journées que ce que ne font la plupart des gouvernements en 4 ans ou en 8 ans. Et nous ne faisons que commencer. Je reviens au Congrès ce soir pour vous dire que l'Amérique a retrouvé son élan, son esprit, son orgueil, sa confiance, et le rêve américain se porte mieux que jamais. Le rêve américain est sans relâche et notre pays est sur le point d'un retour sans pareil dans ce monde. On n'aura jamais rien vu de comparable. Les élections présidentielles du 5 novembre m'ont donné un mandat que l'on n'avait pas connu au cours de décennies. Nous avons emporté les 7 États qui étaient en lice, ce qui nous a donné une grande majorité au sein du Congrès électoral. Nous avons emporté le vote populaire et de beaucoup, et nous l'avons emporté dans beaucoup de comtés du pays. Comptés par rapport à 525. Donc la carte était pratiquement couverte de rouge. Le rouge qui est la couleur du Parti républicain. Et à présent, pour la première fois dans l'histoire moderne, davantage d'Américains pensent que notre pays est sur la bonne voie que ce qu'il n'y a d'Américains qui pensent que nous sommes engagés sur la mauvaise voie. De fait, c'est un record. De même, l'optimisme des petites entreprises ont vu le plus grand gain au cours d'un mois que l'on n'ait jamais enregistré, une augmentation de 41%. Nous demandons aux membres de maintenir leur décorum et d'interrompre. Je vous avertis. Le président est prêt à demander au sergent d'armes de rétablir l'ordre à notre séance conjointe. Monsieur Green, asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Si les membres perturbent l'ordre, nous demandons au sergent d'armes de rétablir l'ordre. Veuillez demander à ce monsieur de quitter la salle. Nous demandons aux membres de respecter les bonnes manières dans la salle. Au cours des six dernières semaines, j'ai signé pratiquement 100 décrets présidentiels et pris plus de 400 actions exécutives, un record pour établir le sens commun, la sécurité, l'optimisme et la richesse tout au long et au large de notre beau pays. Le peuple m'a élu pour faire un travail et c'est ce que je fais. De fait, beaucoup disent que le premier mois de notre présidence, oui, notre présidence, est le plus grand succès, a connu le plus grand succès de l'histoire de notre pays. Beaucoup le disent. Et ce qui fait en sorte que c'est d'autant plus impressionnant, c'est, vous savez, qui est numéro 2, c'est George Washington. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas sûr de cette liste, mais bon, merci. Quelques heures après avoir prêté serment, j'ai déclaré une urgence nationale le long de notre frontière sud et j'ai déployé l'armée et les services de patrouille douanière pour rétablir l'ordre. Ils se sont fort bien acquittés de la tâche. En conséquence, il y a eu beaucoup moins de personnes qui ont traversé illégalement la frontière le mois dernier. Ils m'ont entendu et ils ont choisi de ne pas venir, ce qui simplifie les choses. Par comparaison, sous Joe Biden, le pire des présidents de l'histoire des États-Unis, il y a eu des centaines de milliers de traversées illicites par mois, et pratiquement toutes ces traversées, y compris des trafiquants, des membres de gangs, des assassins, des fous sortant d'asile, se sont dispersés dans notre pays. Qui agit de la sorte? C'est le cinquième discours de ce type que je prononce au Congrès. Et encore une fois, je regarde les démocrates devant moi et je comprends qu'il n'y a absolument rien que je puisse dire pour les rendre contents ou pour faire en sorte qu'ils se mettent debout ou qu'ils sourient ou qu'ils m'applaudissent. Il n'y a rien que je puisse faire. Je pourrais trouver comment guérir la maladie la plus dévastatrice, une maladie qui éliminerait des pays tout entiers, ou annoncer les réponses aux plus grands défis économiques, ou réduire le niveau de criminalité aux niveaux les plus faibles que l'on ait jamais vus. Et les personnes qui sont assises ici ne vont pas applaudir, ne vont pas se mettre debout et ne vont jamais m'applaudir pour ces réalisations. Ils ne le feront jamais. Peu importe ce que je dis, ça fait 5 fois que je viens. Et c'est très triste. Et les choses ne devraient pas être comme cela. Chers démocrates qui êtes devant moi, ce soir, joignez-vous à nous pour fêter toutes ces grandes victoires pour l'Amérique. Pour le bien de notre pays, travaillons ensemble et redonnons force aux États-Unis. Au quotidien, mon administration lutte pour apporter aux États-Unis le changement dont ils ont besoin pour créer un avenir que méritent les États-Unis. Et c'est ce que nous faisons. C'est une époque pour de grands rêves et pour des actions courageuses. Après avoir assumé mes fonctions, j'ai gelé immédiatement tout le recrutement par le gouvernement fédéral, un gel sur toutes les nouvelles réglementations et gelé toute aide étrangère.
I
J'ai mis fin à différentes politiques sur l'environnement et qui coûtaient des milliards de dollars que ne payaient pas les autres pays. Je me suis retiré de l'Organisation mondiale de la santé qui est corrompue. Et je me suis également retiré du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui est anti-États-Unis. Nous avons mis fin à toutes les limitations environnementales imposées par le président Biden qui rendaient notre pays peu sûr et qui étaient inabordables. Et plus important, nous avons mis fin au mandat sur les véhicules électriques imposés par l'administration précédente, mandat qui était dingue, et ceci a permis de sauver notre industrie automobile qui était au bord du gouffre. Pour libérer notre économie, j'ai donné instruction que pour toute nouvelle réglementation, 10 réglementations existantes devaient être éliminées, tout comme je l'avais fait pendant mon premier mandat qui était un grand succès. Et pendant ce premier mandat, nous avons établi des records lorsqu'il s'agit de mettre fin aux règles et réglementations sans nécessaire. C'était sans pareil. Nous avons imposé à tous les travailleurs fédéraux de retourner dans leur bureau. Soit ils reviennent en personne au travail, ou alors ils perdent leur emploi. Et nous avons mis fin au gouvernement utilisé comme arme, où, par exemple, un président peut poursuivre ses adversaires politiques, des gens comme moi. Est-ce que ça a marché pour vous? Pas très bien, en fait. Et j'ai mis fin à toute la censure imposée par le gouvernement et fait revenir la liberté d'expression aux États-Unis. La liberté d'expression est de retour. Et il y a 2 jours, j'ai signé un ordre faisant en sorte que l'anglais soit la langue officielle des États-Unis d'Amérique. J'ai changé le nom du golfe du Mexique, qui est à présent le golfe des Amériques. Et de même, j'ai changé le nom pour un grand président, William McKinley. Donc, ce mont s'appelle le mont McKinley une fois de plus. Nous avons mis fin à la tyrannie de la diversité, l'équité et l'inclusion et mis fin à toutes ces politiques partout au sein du gouvernement fédéral ainsi qu'au sein du secteur privé et des forces armées. Et notre pays ne sera plus un pays qui imposera la diversité. Nous pensons que vous soyez un comptable, un juriste ou un médecin ou un contrôleur du trafic aérien, vous devez être recruté sur la base de votre compétence et non pas sur la base de votre race ou de votre genre. Vous devrez être recruté sur la base de votre mérite et la Cour suprême, dans une décision courageuse et puissante, nous a permis d'agir de la sorte. Merci, merci beaucoup. Nous avons éliminé le poison des théories sur la race critique de nos cursus scolaires et j'ai fait en sorte que ce soit une politique officielle du gouvernement des États-Unis qu'il n'y ait que 2 genres, hommes et femmes. J'ai également signé un ordre, un décret pour empêcher que les hommes ne participent aux activités sportives des femmes. Il y a 3 ans, Peyton McNam était un athlète au lycée, un des meilleurs préparés pour un avenir, mais lorsque son match de volley a été envahi par un homme, elle a été paralysée et ceci a mis fin à sa carrière athlétique. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Quelqu'un frappait la balle aussi fort. Elle est maintenant parmi nous et Peyton, à partir de maintenant, les écoles empêcheront que les hommes ne participent aux activités sportives où sont des femmes, où il y a des femmes, ou alors ces écoles perdront leur financement du gouvernement fédéral. Et si vous voulez voir les chiffres, regardez ce qui s'est passé dans différentes concurrences, la boxe, etc. Il y a un homme qui a terminé 5 heures avant une femme. Il a battu tous les records de 5 heures. C'est affligeant pour les femmes et c'est une mauvaise chose pour notre pays. Et nous n'allons pas accepter cela.
Ce que j'ai décrit n'est qu'un petit pourcentage de cette révolution du sens commun qui, grâce à nous maintenant, affecte le monde entier. Le sens commun est devenu un thème commun et nous n'allons jamais faire marche arrière. Jamais. On ne va pas permettre que cela n'advienne. Parmi mes plus grandes priorités, je voudrais sauver notre économie et aider les familles qui travaillent. Comme vous le savez, nous avons hérité du dernier gouvernement une catastrophe économique et un cauchemar de l'inflation. Leurs politiques ont augmenté les prix de l'énergie, augmenté les coûts des denrées alimentaires et ont fait en sorte que des millions d'Américains ont souffert du point de vue économique. Nous avons souffert de la plus grave inflation en 48 ans, mais peut-être de l'histoire de notre pays. On ne le sait pas. En tant que président, je lutte au quotidien pour corriger cette situation et rendre les États-Unis abordables une fois de plus.
Joe Biden, en particulier, a fait en sorte que les prix des œufs soient sans contrôle. Les prix des œufs ont augmenté en flèche et nous travaillons d'arrache-pied pour réduire ces prix. Monsieur le secrétaire, faites un bon travail, mais vous avez hérité d'une très mauvaise situation du gouvernement précédent. Mais je vous demande de faire du bon travail. Notre combat pour lutter contre l'inflation, c'est de réduire rapidement le coût de l'énergie. L'administration précédente a réduit le nombre de nouvelles autorisations pour les nouvelles exploitations de 95%, ont fermé une centaine de centrales et ainsi que les pipelines, mais nous réouvrons les centrales. Et franchement, on n'avait jamais rien vu de pareil. Voilà pourquoi, pendant mon premier jour, j'ai déclaré une urgence énergétique nationale.
Comme vous me l'avez entendu dire à diverses reprises, nous avons davantage d'or liquide sous nos pieds que beaucoup de pays du monde, et ce de très loin. Et maintenant, j'ai autorisé la plus grande équipe, la meilleure équipe jamais assemblée, d'aller trouver ce pétrole. Foron.
Mon gouvernement travaille également pour construire un pipeline énorme pour le gaz naturel en Alaska, un des plus grands au monde. Le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays veulent faire partenariat. Ce sont des investissements de milliers de milliards de dollars. On n'a jamais rien vu de pareil. Ce sera un investissement spectaculaire. C'est sur le point de démarrer. Et cette semaine, je prendrai des actions historiques pour augmenter la production des terres rares et des minerais critiques ici aux États-Unis.
Pour réduire l'inflation, nous allons non seulement réduire le coût de l'énergie, mais nous allons mettre fin au gaspillage de deniers du contribuable. Et dans ce but, j'ai créé un tout nouveau département, celui de l'efficacité du gouvernement, le département DOGE. Peut-être que vous en avez entendu parler. Avec Elon Musk à sa tête, qui est parmi nous ce soir.
Merci, Elon.
Il travaille très dur. Il n'avait pas besoin de faire cela. Mais merci beaucoup. Nous l'apprécions. Tout le monde l'apprécie. Même l'autre côté l'apprécie, je pense. Ils ne veulent pas l'admettre. Écoutez, je voudrais vous parler de certains des gaspillages épouvantables que nous avons identifiés. 22 milliards de dollars du département du logement pour apporter des voitures et des logements pour des étrangers illicites. Des millions pour des bourses en Birmanie. 42 millions de dollars pour améliorer l'inclusion. Des migrants sédentaires. Personne ne comprend ce que ce sont, des migrants sédentaires. 8 millions de dollars pour promouvoir LGBTQI+, dans le pays africain du Lesotho, dont personne n'a jamais entendu parler. 60 millions de dollars pour les peuples autochtones et l'autonomisation des Afro-Colombiens en Amérique centrale, 60 millions de dollars. 8 millions de dollars pour créer des souris trans. Ce sont de véritables choses. 32 millions de dollars pour une opération de propagande gauchiste en Moldavie. 10 millions de dollars pour la circoncision des garçons au Mozambique. 20 millions de dollars pour la rue Sésame en langue arabe au Moyen-Orient. C'est un programme. 20 millions de dollars pour un programme. 1,9 milliard de dollars pour la commission de décarbonation des ménages.
Et
Stacey Abrams, est-ce que vous avez entendu parler d'elle? C'est elle qui était à la tête de cette commission. Un contrat de consultation de 3,5 millions de dollars pour la surveillance de poissons, 1,5 milliard de dollars pour la confiance des électeurs au Liberia, 14 millions de dollars pour la cohérence sociale au Mali, 59 millions de dollars pour des salles d'hôtel, des chambres d'hôtel pour les immigrants illégaux à New York. C'est un développeur d'immobilier, il s'en sort très bien. 250 millions de dollars pour augmenter l'innovation climatique
local en Zambie, 42 millions de dollars pour le changement social et comportemental en Ouganda, 14 millions de dollars pour améliorer la passation de marché public en Serbie, 47 millions de dollars pour améliorer les résultats d'apprentissage en Asie. Mais l'Asie, en Asie, ils ont de très bonnes écoles, on pourrait suivre leur exemple. Et 101 millions de dollars pour un contrat de diversité et d'inclusion au département d'éducation, le plus que l'on ait jamais payé. On n'a rien vu de pareil sous l'administration Trump. Toutes ces arnaques, et il y en a d'autres plus graves encore, mais je ne voulais pas en parler. Tellement ils sont exécrables. Nous avons exposé tous ces arnaques et un groupe de personnes très intelligentes, surtout les jeunes avec Elon à leur tête, ont éliminé cela. Nous avons trouvé des centaines de milliards de dollars de fraude. Et nous avons récupéré ces fonds et réduit notre dette pour nous permettre de lutter contre l'inflation et faire d'autres choses. Nous avons récupéré cet argent et nous l'avons fait à temps. Ce n'est qu'un début. Le Bureau de redevabilité gouvernementale a estimé une fraude de plus de 500 000 milliards de dollars dans notre pays et nous travaillons d'arrache-pied pour y mettre fin. Nous avons également identifié des niveaux préoccupant de fraude vraisemblable et d'incompétence dans le programme de sécurité sociale, le programme de retraite pour nos personnes âgées. Et nous comptons sur nos personnes âgées. Mais croyez-le ou non, les banques de données disent qu'il y a des personnes qui ont 100 à 100, qu'il y a des centaines de millions de personnes qui ont entre 100 et 109 ans aux États-Unis. Il donne 3,6 millions de personnes qui ont entre 110 ans et 119 ans. Je ne les connais pas. Je connais des personnes assez âgées, mais pas aussi âgées que cela. 3,4 millions de personnes qui ont entre 120 ans et 129 ans. 3,9 millions de personnes qui ont entre 130 et 139 ans. 3,5 millions de personnes qui ont entre 140 et 149 ans. Et des fonds sont déversés à ces personnes. Et nous cherchons à présent, Pam, bonne chance. Bonne chance. Mais beaucoup d'argent est payé à des personnes parce qu'on paye encore et encore et personne ne surveille cela. Et ça affecte la sécurité sociale, ça affecte notre pays. 1,3 million de personnes qui ont plus de 150 ans et d'après la banque de données de la sécurité sociale, il y a plus de 100 000 personnes qui ont plus de 160 ans. Nous avons un pays plus sain que ce que je n'avais pensé que c'était possible.
Et
y compris 1000 qui ont entre 220 et 229 ans, une personne qui a entre 240 et 249 ans, et une personne sur la liste à 360
ans.
Donc, ils sont 100 ans plus vieux que notre pays. Mais on va voir à quoi sont consacrés ces fonds. En mettant fin à tout ce gaspillage, ces vols et ce gaspillage, on va réduire les prix des denrées alimentaires, réduire l'inflation, protéger les personnes âgées et mettre davantage d'argent dans les poches des familles des citoyens américains.
Et aujourd'hui, les taux d'intérêt se sont réduits d'une manière assez conséquente. Le moment était venu et je voudrais faire ce que l'on n'a pas su faire au cours des 24 dernières années, c'est-à-dire équilibrer le budget fédéral. Dans ce but, nous avons développé en détail ce que nous appelons la carte d'or qui sera mise en vente bientôt. Pour 5 millions de dollars, nous permettrons que les personnes du monde entier qui ont su créer des emplois chez eux d'obtenir la citoyenneté américaine. C'est comme une carte verte, mais c'est une meilleure carte. Plus sophistiqués. Ces gens vont devoir payer des impôts dans notre pays. Ils ne paieront plus les impôts dans leur pays d'origine. Et ils vont payer les impôts, créer des emplois. Et on va également faire en sorte que les jeunes diplômés trouvent des postes et ne puissent pas rester et créer de grands nombres d'emplois et du succès pour les diverses sociétés. Et donc, nous expulsons les criminels et les assassins qui ont permis que l'administration Biden, les démocrates, ont laissé rentrer par leur politique porte ouverte ces politiques dingues que vous avez mises en place, qui ont détruit notre pays. Nous allons les expulser, mais ce que nous allons faire, c'est faire venir les gens qui travaillent dur, qui sont brillants, qui créent des emplois. Ils vont payer beaucoup d'argent et cet argent va nous permettre de réduire notre dette. Les Américains nous ont donné un mandat pour apporter un changement profond et courageux depuis plus de 100 ans. La bureaucratie fédérale a connu une croissance énorme. Elle ralentit le potentiel américain, elle gonfle nos budgets et nous ralentit. La nation fondée par des pionniers, des preneurs de risques maintenant, est noyée sous des millions et des millions de pages de réglementations et de dettes. Des approbations qui devraient prendre 10 jours à obtenir en lieu et place prennent 10 ans, 15 ans, voire 20 ans avant que vous ne rejetiez la chose. Et en attendant, nous avons des centaines de milliers de travailleurs fédéraux qui ne se présentent pas au travail. Mon administration va réduire cette bureaucratie, rétablir la redevabilité et rétablir une véritable démocratie aux États-Unis. Et tout bureaucrate fédéral qui résiste à ce changement perdra son poste immédiatement. Parce que nous mettons de l'ordre dans le gouvernement, c'est simple. Et l'ère où les bureaucrates qui n'étaient pas élus gouvernent le pays, cette ère a pris fin. Et la prochaine phase de notre plan pour créer la meilleure économie de notre histoire est pour ce Congrès d'adopter des réductions d'impôts pour tout le monde. Les lois sont prêtes, on attend que vous ne votiez et je suis sûr que les gens à ma droite, je ne veux pas dire la droite républicaine, mais à ma droite ici, et je suis sûr que vous allez voter pour ces réductions d'impôts parce que sinon, je ne pense pas que vous serez jamais élu. Et c'est une faveur que je vous fais en vous donnant ce conseil, mais je sais que ce groupe va voter en faveur de la réduction de la dette.
Thank you.
Merci, c'est un volet très important de notre plan. Nous connaissons énormément, nous avons eu beaucoup de succès avec cela pendant notre premier mandat et nous cherchons à obtenir des réductions de l'impôt sur le revenu pour aider les Américains qui ont été frappés par l'inflation. Et je demande qu'il n'y ait pas d'impôt sur les pourboires, pas d'impôt sur les heures supplémentaires et pas d'impôt sur les prestations de sécurité sociale pour nos personnes âgées. Et
je voudrais
également faire en sorte que les impôts sur les emprunts pour l'acquisition d'une automobile soient déduisibles des impôts, mais uniquement si la dite automobile est fabriquée aux États-Unis. Et nous connaîtrons une croissance de l'industrie automobile plus grande que jamais. Il y a des marchés qui sont faits, on n'a jamais vu cela. C'est une combinaison de notre victoire électorale et des tarifs. C'est un très beau mot, les tarifs. Ceci, avec nos autres politiques, vont permettre à l'industrie automobile de connaître un renouveau. J'ai parlé aux trois grandes sociétés automobiles et les grandes sociétés ont annoncé qu'ils vont construire des grandes usines automobiles aux États-Unis. Honda vient d'annoncer une nouvelle usine en Inde, dans l'Indiana, une des plus grandes au monde.
Et
ceci a eu lieu depuis notre grande victoire le 5 novembre, une date qui marquera l'histoire de notre pays. En outre, dans ce contexte de réduction des impôts, nous voulons réduire les impôts sur la production nationale de tous les procédés industriels et nous apporterons 100% de réduction. Ce sera rétroactif au 1er janvier 2025 et c'est une des raisons pour lesquelles nos réductions d'impôts ont connu un tel succès pendant notre premier mandat. Nous donnons la meilleure économie de l'histoire de notre pays pendant notre premier mandat. Notre premier mandat a été excellent. Si votre produit n'est pas fabriqué aux États-Unis, toutefois, sous l'administration Trump, vous allez payer des droits de douane et dans certains cas, des droits de douane très importants. D'autres pays utilisent les droits de douane contre nous et maintenant, le moment est venu pour nous d'utiliser les droits de douane contre les autres pays. En moyenne, l'Union européenne, la Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Canada. Vous avez entendu parler de ces pays et un grand nombre d'autres pays nous font payer des tarifs énormes, des niveaux de droits douaniers beaucoup plus importants que nous faisons. C'est très injuste. L'Inde nous fait payer plus de 100% sur l'automobile. Les tarifs moyens de la Chine sur nos produits est deux fois ce que nous faisons payer pour les produits chinois qui arrivent aux États-Unis. Et la Corée du Sud, c'est quatre fois plus, pensez-y, quatre fois plus. Et nous apportons énormément d'aide militaire et à d'autres égards à la Corée du Sud. Mais voilà ce qui se passe. C'est ce que font nos amis, tout comme nos ennemis. Ce système est injuste pour les États-Unis. Cela n'a jamais été juste, et donc le 2 avril, je voulais que ce soit le 1er avril, mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas qu'on pense que c'était un poisson d'avril. Ce jour seul va nous coûter beaucoup d'argent, mais donc ça entrera en vigueur le 2 avril. Je suis un homme superstitieux. Les tarifs réciproques entrent en ligne de compte. Et donc, les tarifs imposés par d'autres pays, eh bien, c'est ce que nous imposerons également. C'est réciproque, c'est équilibré. Peu importe ce qu'ils nous font payer, nous leur ferons payer la même chose. S'ils imposent des tarifs non monétaires pour nous empêcher d'accéder à leur marché, alors nous imposerons des barrières non monétaires pour les empêcher de participer à nos marchés. Et c'est ce qu'ils font également. Ils ne nous permettent même pas d'avoir accès à leur marché. Nous allons prendre des milliers de milliards de dollars et créer des emplois plus que jamais. Je l'ai fait avec la Chine et je l'ai fait avec d'autres. Et l'administration Biden n'a rien pu y faire parce que c'était beaucoup d'argent. Donc, ils ont dû laisser ces règles en place. Ça fait des règles que pratiquement tous les pays sur Terre nous arnaquent. Et nous n'allons pas plus permettre que cela n'advienne. Beaucoup a été dit au cours des trois derniers mois sur le Mexique et le Canada, mais nous avons des déficits énormes dans ces deux pays. Mais plus important, ils ont permis que le fentanyl entre dans leur pays à des niveaux qu'on n'a jamais vus, ce qui tue des centaines de milliers de nos citoyens et beaucoup de jeunes. Ça détruit des familles. On n'avait jamais rien vu connu de pareil. Ils reçoivent des subventions de centaines de milliards de dollars. Nous payons des subventions au Canada et au Mexique, des centaines de milliards de dollars. Mais les États-Unis ne le feront plus. On ne le fera plus. Grâce à nos politiques qui mettent les États-Unis au premier plan, nous avons eu 1,7 milliard de dollars de nouveaux investissements aux États-Unis au cours des dernières semaines, une combinaison de l'élection et nos politiques économiques. La SoftBank a annoncé un investissement de 200 milliards de dollars. OpenAI et Oracle, Larry Ellison, ont annoncé 500 milliards de dollars en investissement. Et ils ne l'auraient pas fait si Kamala avait emporté l'élection. Apple a annoncé un investissement de 500 milliards de dollars. Tim Cook m'a appelé, il m'a dit, je vais dépenser cet argent très rapidement. Ces investissements seront plus importants. Et ces usines seront construites ici plutôt qu'en Chine. Et hier, Taïwan, semi-conducteur, la plus grande société de semi-conducteurs au monde, et qui détient 97% du marché, ont annoncé un investissement de 165 milliards de dollars pour construire les micro-puces les plus puissantes au monde ici aux États-Unis. Et on ne leur donne pas d'argent. Vos lois sont horribles. On donne des centaines de milliards de dollars et ça ne veut rien dire. Ils prennent notre argent, mais ils ne le dépensent pas. Tout ce qui était important pour eux, c'est qu'ils ne voulaient pas payer les tarifs. Donc ils viennent et ils construisent ici. Et beaucoup d'autres pays viennent. On ne doit pas leur donner d'argent. On veut simplement protéger notre peuple. Et ils viendront parce qu'ils ne devront pas payer de tarifs si leurs produits sont fabriqués aux États-Unis. Donc c'est extraordinaire, vous devrez vous débarrasser de la loi CHIP et vous devez utiliser les fonds, Monsieur le Président, pour réduire la dette, ou je vous laisse libre choix de comment vous allez utiliser ces fonds. Notre nouvelle politique commerciale sera également très bonne pour les agriculteurs américains. J'aime beaucoup les fermiers. Nous allons maintenant vendre dans notre propre marché, les États-Unis, parce que personne ne pourra faire concurrence contre vous. Parce que les marchandises qui viennent d'autres pays se trouvent dans une mauvaise posture et ils ne font pas l'objet d'inspection. Ce sont peut-être des produits sales et dégueulasses qui viennent ici, qui affectent les agriculteurs américains. Mais les droits de douane seront imposés contre les produits agricoles qui entrent aux États-Unis. Et à partir du 2 avril, il y aura peut-être une petite période d'ajustement. Vous l'avez vu auparavant lorsque j'ai fait le marché avec la Chine, 50 milliards de dollars. J'ai dit, soyez patients. Ils l'ont fait. Vous allez sans doute devoir être patient une fois de plus. Mais ça, c'est une très bonne chose et ceci, ça ira encore mieux. Mais le problème, c'est que Biden n'a pas fait appliquer les règles. 50 milliards de dollars d'acquisition. Et les choses allaient bien, mais Biden n'a pas appliqué les règles et ça a affecté nos agriculteurs. Mais nos agriculteurs vont très bien s'en sortir maintenant. Et à nos fermiers maintenant, je vous dis, amusez-vous. Je vous aime. Et j'ai également imposé des droits de douane sur le bois d'œuvre, l'acier et d'autres produits, parce que sans ces produits, nous n'aurons plus un pays, nous n'aurons pas d'armée, il y a beaucoup d'autres choses. J'ai avec moi un travailleur métallurgique très fier de Decatur dans l'Alabama, Jeff Dennard, qui a travaillé dans la même usine sidérurgique depuis 27 ans, un poste qui lui a permis de servir en tant que capitaine de son département des pompiers local, élevé 7 enfants avec sa très belle femme Nicole et accueilli plus de 40 enfants adoptifs. Donc, félicitations, Jeff. Merci, Jeff.
Thank you, Jeff. Stories like Jeff's remind us that tariffs are not
Jeff nous rappelle que les droits de douane, quand on parle de droits de douane, il ne s'agit pas uniquement de protéger les emplois américains, il s'agit de protéger l'âme même de notre pays. Il s'agit de faire en sorte que l'Amérique soit riche une fois de plus, que l'Amérique soit grande à nouveau. Et c'est ce qui va devenir, et cela va devenir assez rapidement. Il y aura quelques petites difficultés, mais bon, il faut l'accepter, ce ne sera pas très grave. Et regardez ce à quoi Biden nous a mené. La pire situation qu'on ait jamais connue. Jeff, merci beaucoup. Et je voudrais également saluer une autre personne qui s'est consacrée à accueillir les enfants dans le système d'adoption. Notre première dame des États-Unis. Le travail de Melania a mené à d'excellents résultats, aidant à préparer les jeunes leaders de notre pays alors qu'ils entrent dans le monde du travail. Il y a deux femmes très impressionnantes aux côtés de notre première dame, Hayley Ferguson, qui a obtenu qui a bénéficié de l'initiative de la première dame et qui va terminer ses études et devenir une enseignante. Ellison Berry, qui est devenue victime d'une image produite de manière illicite par un de ses homologues. Avec l'aide d'Elliston, le Sénat vient d'adopter une loi pour éliminer ces photos sur l'Internet. Et c'est très important. Merci beaucoup. Merci de votre travail. Levez-vous. Merci à toutes. Et merci à John Thune et au Sénat. Excellent travail pour pénaliser la publication de ces images en ligne. C'est une chose terrible. Et une fois que la loi sera adoptée par la Chambre, je vais signer ce projet de loi et je vais utiliser ce projet de loi pour me défendre moi-même, parce que personne n'est traité pire que moi en ligne. Personne. Merci beaucoup au Sénat. Merci. Mais si nous voulons véritablement protéger les Américains et nos enfants, il n'y a aucune étape plus cruciale que de garantir nos frontières. Au cours des 4 dernières années, 21 millions de personnes sont entrées aux États-Unis. Nombre d'entre eux étaient des assassins, des trafiquants d'êtres humains, des membres de gangs et d'autres criminels venus des villes les plus dangereuses du monde entier, dû à la politique de frontières ouvertes dingue et dangereuse de Joe Biden. Ils sont maintenant incrustés dans notre pays, mais nous les expulsons et nous les expulsons rapidement. Et je voudrais remercier Tom Holman et Christy. Je voudrais remercier Paul des patrouilles le long des frontières. Merci beaucoup, excellent travail. C'est forces de l'ordre en général, il faut protéger nos forces de l'ordre.
L'année dernière, un étudiant en infirmerie brillante, Laken Riley, la meilleure dans sa classe, admirée de tous, est allée courir sur le campus de l'Université de Géorgie. Ce matin-là, Laken a été attaqué, battu, brutalisé et assassiné de manière horrible. Laken nous a été volé par un membre d'un gang, un étranger illégal. Site qui a été arrêté en passant à travers la frontière sud des États-Unis qui était ouverte et ensuite libérée sous ces politiques de cette administration. C'était une administration qui ne fonctionnait pas. Il avait été ensuite arrêté et libéré dans une ville sanctuaire démocrate, une catastrophe, avant de mettre fin à la vie de cette très belle jeune femme. Il y a la mère de Laken, Allison, et sa sœur, Lauren, qui sont parmi nous. L'année dernière, j'ai dit aux parents en deuil de Laken que nous allons nous assurer que leur fille ne serait pas morte en vain. Voilà pourquoi le premier projet de loi que j'ai signé en tant que 47e président des États-Unis impose l'arrestation de tous les étrangers illicites dangereux qui menacent la sécurité publique. C'est une loi forte et puissante. C'est la loi Laken-Riley. Allison et Lorraine, l'Amérique n'oubliera jamais Laken Hope Riley.
Thank you very much.
Merci beaucoup.
Depuis que j'ai assumé mes fonctions, mon administration a lancé la fermeture des frontières aux États-Unis et nous avons rapidement réduit
énormément le nombre d'étrangers qui traversent de manière illicite nos frontières. Nous avons battu tous les records à ce niveau-là.
Les médias et nos amis dans le Parti démocrate disaient qu'il nous fallait des nouvelles législations, qu'il fallait des législations pour garantir la sécurité aux frontières, mais en fin de compte, tout ce qu'il fallait, c'était un nouveau président.
Merci. Joe Biden non seulement a ouvert nos frontières, mais il a fait survoler nos frontières pour déborder nos écoles, nos hôpitaux et des communautés telles que Aurora dans le Colorado et Springfield se sont effondrées sous la corruption et le poids de ces plus que jamais. On n'avait jamais rien vu de pareil. Des très belles villes détruites. Et comme je l'ai dit dans mon discours d'investiture, nous libérons les États-Unis. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce soir, parmi nous, il y a une femme que j'ai appris à connaître, Alexis Ngeri de Houston, une femme merveilleuse. La fille de 12 ans, Jocelyn, est allée à une épicerie de coin. Elle a été attaquée, kidnappée, attaquée pendant deux heures sous un pont et assassinée. Arrêtée et inculpée de ce crime sont deux monstres qui sont venus de manière illicite au Venezuela et libérés par la dernière administration, par leur politique de frontières ridicule. De frontières illicites. L'agonie de cette mère et de cette fille ont grandement affecté notre pays. Alexis, j'ai promis que nous nous souviendrons toujours de votre fille, de votre très belle fille. Et ce soir, j'ai signé un décret pour tenir ma parole. Une chose que j'ai découvert sur Jocelyn, c'est qu'elle aimait énormément la nature et les animaux. À travers la baie de Galveston, où vivait Jocelyn à Houston, vous trouverez un refuge pour la faune sauvage, 34 000 acres, un sanctuaire pacifique pour toutes les créatures du bon Dieu sur le rivage du golfe de l'Amérique. Alexis, il y a quelques instants, j'ai nommé ce refuge en mémoire de votre fille Jocelyn. Donc, Monsieur le Vice-président, si vous le permettez, ce décret. Merci beaucoup. Ces trois hommes sauvages qui ont été inculpés par les assassinats de Lakin et Jocelyn, qui font partie du gang des prisonniers du Venezuela. Il y a deux semaines, j'ai dit que ce gang, ainsi que MS-13 et les cartels sauvages mexicains, comme des organisations terroristes étrangères. Ils sont maintenant officiellement dans la même catégorie que Daesh, et c'est une mauvaise chose pour eux. Des milliers de ces terroristes ont été accueillis aux États-Unis par l'administration Biden, mais à présent, ils seront tous pourchassés et retirés de force, expulsés de force de notre pays, ou s'ils sont trop dangereux, jetés en prison, et on leur fera procès ici, parce que nous ne voulons pas qu'ils puissent revenir. Ce soir, parmi nous, il y a un guerrier sur le front de ce combat, agent des frontières Roberto Ortiz. En janvier, Roberto et un autre agent étaient en patrouille le long du Rio Grande, dans une zone qu'on appelle l'île des cartels. Ce nom est de mauvais augure. Et des hommes très fortement armés ont commencé à tirer sur eux. Roberto a vu que son partenaire était exposé et en danger. Il est sauté dans l'action. Il a retourné le feu. Il leur a tiré dessus pour permettre à son collègue d'arriver en sécurité. À peine, mais il est arrivé en sécurité. J'ai vu des images de cet événement. L'agent Ortiz, nous vous félicitons pour votre courage. Vous avez montré courage et nous vous félicitons. Merci infiniment, Roberto.
J'ai
fait beaucoup d'appels aux responsables des frontières. Le territoire au sud de notre frontière est dominé par des cartels criminels qui assassinent, violent, torturent et exercent un contrôle total. Ils contrôlent totalement tout un pays, posant une grave menace à notre sécurité nationale. Les cartels font guerre aux États-Unis et le moment est venu pour l'Amérique de faire guerre contre les cartels. Et c'est ce que nous faisons. Il y a cinq soirs, les autorités mexicaines, dues à nos politiques de droits de douane qu'on leur impose, pensez-y, nous ont donné 29 des plus grands dirigeants des cartels dans leur pays. C'est quelque chose qui n'était jamais advenu de par le passé. Ils veulent que nous soyons satisfaits. C'est la première fois qu'ils se comportent de la sorte. Mais il faut que le Mexique et le Canada en fassent davantage. Et ils doivent mettre fin aux drogues qui inondent les États-Unis. Ils vont y mettre fin. J'ai envoyé au Congrès une demande de financement détaillée pour décrire exactement comment nous allons éliminer ces menaces pour compléter la plus grande opération de déportation dans l'histoire des États-Unis. Battant le record du président Eisenhower, qui était un homme modéré, mais qui croyait que les frontières étaient importantes. Je demande aux membres du Congrès de nous envoyer ce financement. Monsieur le président de la Chambre, merci. Et donc, adoptez cette loi. Je la signerai très, très rapidement. Et alors que nous retrouvons notre souveraineté, nous devons également faire revenir la loi et l'ordre dans nos villes. Au cours des années récentes, notre système de justice a été bouleversé par des dingues de la gauche radicale. Dans beaucoup de localités, on n'arrêtait plus les criminels. On agissait contre les adversaires politiques uniquement, mais nous avons rétabli rapidement la justice juste et impartiale au titre de l'état de droit constitutionnel, en commençant par le FBI et le département de la justice. Pam, bonne chance. Cash, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais bonne chance, bonne chance. Pam Bondi, bonne chance. Vous faites un travail très important. Elle va. Cash, merci. Merci. Ils ont déjà commencé à faire un excellent travail, mais ils continueront d'être fantastiques. Vous allez être très fiers d'eux. Une fois de plus, nous donnons à nos officiers de police l'appui, la protection et le respect qu'ils méritent grandement. Ils font un travail très dangereux et très difficile, mais nous allons faire en sorte qu'il soit de moins dangereux. Le problème, c'est que les mauvais ne respectent pas l'ordre et la loi, mais ils commencent à le respecter et bientôt ils vont le respecter davantage. Et ceci comprend également nos pompiers du pays, qui sont des gens extraordinaires. Il ne faut jamais les oublier. Et outre cela, ils ont voté pour moi en nombre record. Il y a un mois, un an de cela, un officier de police, Jonathan Diller, qui avait 31 ans, une personne fantastique et un excellent officier, a été abattu lorsqu'il arrêtait une voiture à Long Island. Je suis allé à son enterrement. Les criminels vicieux avaient été arrêtés 21 fois au précédent et il avait fait des choses horribles.
Et son collègue avait été arrêté 14 fois de plus. Et on l'appelait Killer, le tueur. Il a tué beaucoup de personnes. J'ai assisté à la messe funèbre de l'officier lorsque j'ai rencontré sa femme et son fils qui a un an. Ça m'a beaucoup inspiré. Sa veuve s'appelle Stéphanie, elle est des nôtres. Stéphanie, merci beaucoup. Stéphanie, nous allons nous assurer que Ryan sache que son père était un héros et nous allons faire en sorte que ces assassins ne sévissent plus et nous allons le faire rapidement, on va y mettre fin. Ils poussaient les gens sous des rames de métro, ils tapaient les gens sur la tête avec des battes de baseball, il faut les expulser. J'ai déjà signé un ordre exécutif qui impose une peine de mort obligatoire pour quiconque qui assassine un officier de police. Et ce soir, je demande au Congrès d'adopter cette loi. Je demandais par ailleurs qu'il y ait une nouvelle loi sur la criminalité contre les récidivistes tout en renforçant les protections pour les officiers de police américains pour qu'ils puissent faire leur travail sans craindre que leur vie ne soit détruite. Ils ne veulent pas être tués et on va éviter qu'ils soient tués. Des nôtres, ce soir, il y a un jeune homme qui adore notre police. Il s'appelle DJ Daniel, il a 13 ans et il a toujours voulu devenir un officier de police.
Mais en 2018, DJ a reçu un diagnostic de cancer du cerveau. Les médecins pensaient qu'il n'allait plus vivre que pendant 5 mois, mais c'était il y a plus de 6 ans. Depuis lors, DJ et son père ont cherché à faire en sorte que son rêve devienne réalité et DJ a prêté serment en tant qu'officier honoraire à diverses reprises. En fait, la police, les départements de police l'aiment beaucoup. Et ce soir, DJ, on va te donner le plus grand honneur. Je vais demander à notre nouveau directeur de service secret, Sean Curran, à faire en sorte que tu deviennes officiellement un agent des services secrets des États-Unis.
Merci DJ.
Les médecins pensent que DJ a été exposé à un produit chimique lorsqu'il était jeune. Depuis 1975, les taux de cancer chez les enfants ont augmenté de plus de 40%. Inverser cette tendance est l'une des priorités principales de notre nouvelle commission présidentielle pour rendre les États-Unis plus saines, sous la houlette de notre nouveau secrétaire de la Santé et des Services humains, Robert F. Kennedy Jr. Vous êtes un Kennedy, on aurait pu penser que tout le monde vous aurait applaudi de ce côté-ci, mais ils oublient rapidement. Nous voulons éliminer les toxines de notre environnement, éliminer les poisons dans les denrées alimentaires et faire en sorte que nos enfants soient sains et forts. En tant qu'exemple, il y a peu, et ce sont des chiffres incroyables. Un enfant sur 10 000 souffrait d'autisme. Un sur 10 000. Et maintenant, c'est un enfant sur 36. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant sur 36, pensez-y. Donc, on va essayer de découvrir quelles sont les causes. Et je félicite Bobby et tous ceux qui travaillent avec vous. Excellente équipe qui va essayer de voir ce qui se passe. Bonne chance, Bobby. Mais c'est un travail très important. Mon administration travaille également pour protéger nos enfants des idéologies toxiques dans nos écoles. Il y a quelques années, le petit John et ont découvert que l'école de leur enfant avait fait passer leur petite fille de 13 ans. Les administrateurs et les enseignants ont trompé January et son mari et encouragé leur fille à utiliser un nouveau nom et de nouveaux pronoms. Yel, sans dire à January qu'elle est là ce soir, et qui maintenant nous défend contre ce type d'abus des enfants. Merci, January. Les anecdotes telles que celles-ci sont la raison pour laquelle, peu de temps après assumer mes fonctions, j'ai signé un décret interdisant aux écoles d'endoctriner nos enfants avec cette idéologie trans. J'ai également signé un décret pour mettre fin à tout financement public de toute institution qui s'engage dans la mutilation sexuelle de nos jeunes. Et maintenant, je voudrais que le Congrès adopte un projet de loi interdisant et pénalisant les changements de sexe pour les enfants et mettant fin à ce mensonge que ces enfants sont piégés dans un mauvais corps. C'est un mensonge. Et notre message à tous les enfants aux États-Unis, c'est que vous êtes parfaits comme Dieu vous a créés. Parce qu'on élimine ce type d'idées dans nos écoles et dans nos armées, et ça a déjà disparu. Le wokisme est une mauvaise chose. Le wokisme est révolu et ça va beaucoup mieux du coup, n'est-ce pas? Les membres des forces armées ne seront pas des idéologues et des activistes, ce seront des guerriers et des combattants. Ils vont lutter pour notre pays. Et Pete, félicitations à notre secrétaire de la Défense.
And
Et il n'aime pas le wokisme, Pete, je peux vous le dire, je le connais bien. Et j'ai eu le plaisir de vous dire qu'en janvier, l'armée des États-Unis a connu son meilleur mois de recrutement au cours des 15 dernières années et que tous les services obtiennent d'excellents résultats en termes de recrutement à l'époque actuelle. Et vous savez, il y a quelques mois à peine, les résultats étaient l'inverse. On n'arrivait pas à recruter du tout. On ne pouvait pas recruter, mais maintenant, nous avons les meilleurs résultats. Des résultats sans pareil. Donc, c'est un renversement de situation extraordinaire. C'est une chose merveilleuse. Les gens aiment le pays une fois de plus. C'est simple. Ils aiment notre pays et ils veulent servir les forces armées. Et donc, c'est une très bonne chose. Merci. Se joint à nous un jeune homme, Jason Hartley, qui a répondu à l'appel. Le père, le grand-père et l'arrière-grand-père de Jason ont tous porté l'uniforme. Jason, tragiquement, a perdu son père, qui était également un shérif de Los Angeles lorsqu'il était un petit garçon, et maintenant il veut continuer ce patrimoine de service de son pays. Il est en dernière année du lycée, un étudiant avec d'excellentes notes et un excellent athlète, et son grand rêve, c'est d'assister à l'Académie militaire de West Point. Et Jason, c'est très dur d'entrer à West Point, c'est très dur, mais j'ai le plaisir de te dire qu'on a accepté ta demande et que bientôt tu vas te joindre. Merci, Jason. Jason est un futur soldat. En tant que commandant en chef, je mets l'accent sur comment développer l'armée la plus puissante pour l'avenir. Et en tant que première étape, je demande au Congrès de financer un bouclier antimissile pour protéger notre territoire. Tous les éléments du bouclier seront fabriqués aux États-Unis. Ronald Reagan voulait le faire il y a longtemps, mais la technologie n'existait pas à l'époque. On n'y était pas du tout, mais maintenant nous avons une technologie extraordinaire. Israël a cette technologie, et ailleurs également. Et les États-Unis devraient l'avoir également, n'est-ce pas, Tim? Ils devraient l'avoir également, et je voudrais vous dire merci. Mais c'est très important. C'est un monde très dangereux et nous devons avoir cette technologie. Nous voulons être protégés et nous allons protéger nos citoyens mieux que jamais. Pour renforcer notre bassin industriel de la défense, nous allons également renouveler l'industrie des chantiers navals, commerciaux et militaires. Et dans ce but, j'annonce ce soir que nous allons créer un nouveau bureau pour les chantiers navals à la Maison-Blanche et créer des incitations fiscales pour faire en sorte que cette industrie revienne aux États-Unis. On fabriquait beaucoup de navires, mais on ne le fait plus beaucoup, mais on va le faire rapidement et bientôt. Et on aura un impact énorme pour renforcer notre sécurité nationale. Mon administration va récupérer le canal de Panama et nous avons déjà commencé à se faire.
Just today, a large
Une grande société américaine a annoncé aujourd'hui qu'il achète les deux ports du canal de Panama et beaucoup d'autres choses liées au canal de Panama et d'autres canaux. Le canal de Panama a été construit par des Américains, pour les Américains et non pas pour les autres. Mais d'autres pouvaient s'en servir également. Il a été construit à un coût énorme de sang et de trésors américains. 38 000 travailleurs sont morts en construisant le canal de Panama. Ils sont morts du paludisme, ils sont morts de morsures de serpents et de moustiques. Ils ont été payés énormément, sachant qu'ils avaient 25% de chances de mourir. Le projet le plus cher que l'on ait jamais construit dans l'histoire de notre pays, si on tient compte du coût. Il a été donné par l'administration Carter de 1 dollar, mais cet accord a été enfreint gravement. Nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous n'avons pas donné le canal à la Chine, nous l'avons donné à Panama, et donc maintenant nous récupérons le canal. Et nous avons Marco Rubio qui est responsable. Et bonne chance, Marco. Et nous avons sur qui jeter le blâme si les choses ne vont pas bien. Non, Marco a été époustouflant. Il va faire très bien faire son travail. Et pensez-y, il a obtenu 100 votes. Il était approuvé. Avec, en fait, 99, les centièmes étaient ce monsieur. Partons du principe qu'il a obtenu 100 votes. Et je suis soit très content, soit très préoccupé de cette situation. Mais il est respecté par tout le monde et nous apprécions que vous ayez voté pour Marco. Il va très bien s'acquitter de ses responsabilités. Merci. Il fait déjà un excellent travail. Et j'ai également un message ce soir pour le peuple extraordinaire du Groenland. Nous appuyons fermement votre droit à déterminer votre propre avenir. Et si vous le choisissez, vous êtes les bienvenus à vous joindre aux États-Unis. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale et la sécurité internationale. Et nous travaillons avec tous ceux qui sont concernés. Mais nous en avons besoin pour la sécurité internationale et la sécurité du monde. Et je pense que nous allons l'obtenir d'une manière ou d'une autre. On obtiendra gain de cause. Vous resterez en sécurité, vous serez riches et ensemble, le Groenland atteindra des sommets sans précédent. C'est une petite population, mais c'est un territoire très grand qui est très important pour la sécurité militaire. L'Amérique, une fois de plus, se défend fortement contre les forces du terrorisme islamique radical. Il y a 3 ans et demi, les terroristes de Daesh ont tué 13 soldats américains et un grand nombre d'autres dans le bombardement lors du retrait catastrophique de l'Afghanistan. Ce n'est pas que l'on faisait le retrait, c'est la façon dont on fait le retrait. Peut-être le moment le plus gênant de l'histoire de notre pays. Maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons d'arrêter le principal terroriste responsable de cet acte atroce et il est maintenant en route ici pour faire face à la justice américaine qui agira rapidement. Et je voudrais remercier en particulier le gouvernement du Pakistan qui nous a aidé à arrêter ce monstre. C'était un jour très important pour ces 13 familles que j'ai bien connues, dont les enfants ont été assassinés. Et le nombre de personnes, plus de 42 personnes, qui ont été grièvement blessées ce jour tragique en Afghanistan. Quelle journée horrible! C'était une incompétence énorme. Lorsque Poutine a vu ce qui s'est passé, il a dit, bon, c'est peut-être mon moment. C'était des gens tout à fait incompétents. J'ai parlé à beaucoup des parents et des êtres chers et ils sont tous dans nos cœurs aujourd'hui. Je leur ai parlé au téléphone, nous avons un grand appel Ils se sont joints à l'appel et ils ont pleuré de bonheur, ils étaient enchantés. Eu égard aux circonstances, leur frère, leur sœur, leur enfant, leur garçon, leur fille ont été tués sans raison aucune au Moyen-Orient. Mais nous faisons revenir nos otages de Gaza. Pendant mon premier mandat, nous avons obtenu l'un des meilleurs accords de paix depuis des générations, les accords d'Abraham. Et maintenant, nous allons nous asseoir sur ces bases pour créer un avenir plus prospère pour toute la région. Beaucoup de choses se produisent au Moyen-Orient. On en a beaucoup parlé. Avec tout ce qui se passe en Ukraine et en Russie, il y a beaucoup de choses qui se passent au Moyen-Orient. C'est un voisinage assez dangereux. Je travaille également sans relâche pour mettre fin au conflit sauvage en Ukraine. Des milliers d'Ukrainiens et de Russes ont été tués ou blessés dans ce conflit horrible et brutal qui n'a aucune fin en vue. Les États-Unis ont envoyé des centaines de milliards de dollars pour appuyer la défense de l'Ukraine sans sécurité, sans quoi que ce soit. Vous voulez que cette guerre continue pendant 5 ans? Vous me direz que Pocahontas vous dit oui. Deux mille personnes sont tuées toutes les semaines. Et plus, davantage encore, les jeunes Russes, des jeunes Ukrainiens, ce ne sont pas des Américains, mais je veux que ça prenne fin. L'Europe, tristement, a dépensé davantage d'argent en achetant le gaz et le pétrole russe qu'ils n'ont dépensé pour défendre l'Ukraine. Et ce de loin, pensez-y, ils ont dépensé davantage à acquérir le gaz et le pétrole russe qu'ils n'ont dépensé pour la défense. Et nous avons dépensé peut-être 350 milliards de dollars. C'est comme voler des bonbons aux bébés, et ils ont dépensé 100 milliards de dollars. Vous voyez la différence. Et nous avons un océan qui nous sépare, et eux, non. Mais on s'entend très bien avec eux, et il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Biden a autorisé davantage de fonds dans ce combat que n'a dépensé l'Europe. Il a dépensé des milliards et des milliards de dollars de plus. Et à un moment donné, ils auraient dit, égalisons les choses, vous devez dépenser autant que nous. Et ça n'est pas advenu. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre très importante du président Zelensky de l'Ukraine. La lettre dit, l'Ukraine est prête à venir à la table de négociation dans les plus brefs délais pour établir la paix. Personne ne veut la paix davantage que les Ukrainiens, il me dit. Et mon équipe et moi sommes prêts à travailler sous le leadership du président Trump pour obtenir une paix durable. Nous prisons à quel point tout ce que les États-Unis ont fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. Concernant l'accord sur les minerais et la sécurité, l'Ukraine est prête à signer cet accord à tout moment qui soit propice pour vous. Et je lui suis reconnaissant d'avoir envoyé cette lettre. Je viens de la recevoir. Dans le même temps, nous avons eu des conversations sérieuses avec la Russie et j'ai reçu des indications fortes qu'ils sont prêts pour la paix. Ne serait-ce pas là une bonne chose?
Beautiful.
Le moment est venu de mettre fin à cette folie, de mettre fin à cette tuerie, de mettre fin à cette guerre qui ne fait aucun sens. Si vous voulez mettre fin aux guerres, vous devez parler aux deux parties en lice. Il y a pratiquement 40 ans, pendant les tensions montant, un professeur d'histoire, Mark Fogel, a été arrêté en Russie et condamné à 14 années dans une colonie pénale. Le gouvernement précédent n'ont rien fait pour l'aider. Ils savaient qu'ils étaient innocents, mais ils ne savaient pas que faire. Mais l'été dernier, j'ai promis à sa mère de 95 ans, Malvin, que nous allons ramener son garçon ici. Après 22 jours en fonction, c'est ce que j'ai fait et ils sont là ce soir. À Marc et à sa mère, nous sommes enchantés que vous soyez avec nous, que vous vous portiez bien. Et comme le veut le hasard, Mark Fogel est né dans une petite ville rurale à Butler, en Pennsylvanie. Est-ce que vous en avez entendu parler? Où sa mère a vécu, vit depuis 78 ans. Et j'y suis allé le 13 juillet dernier pour un rallye. C'était pas très agréable. Et c'est là que j'ai rencontré sa mère juste avant de monter sur cette scène. Et je lui ai dit que je n'oublierai pas ce qu'elle m'a dit sur son fils. Et je ne l'ai pas oublié, n'est-ce pas? Je n'ai pas oublié. 10 minutes plus tard à peine, lors de ce même rallye, il y a eu des coups de feu et un assassin a tiré à 8 reprises dans une foule où il y a des milliers de personnes. Ma vie a été sauvée d'un centimètre, mais d'aucuns n'ont pas eu autant de chance. Corey Comparator était un vétéran, un chrétien, un mari, un pompier, un père et avant tout, il protégeait les uns et les autres. Lorsqu'il a entendu les coups de feu, c'était un son horrible. Corey savait instantanément ce que c'était et ce qu'il fallait faire. Il s'est jeté sur sa femme et sur ses filles et a servi de bouclier contre les balles et les a protégés de son propre corps. Corey a été frappé dur. Et donc, il a sacrifié sa vie pour sauver la vie de ses êtres chers. Deux autres personnes ont également été gravement atteintes, mais fort heureusement, grâce à l'aide de deux médecins, on pensait qu'on les avait perdus, mais ils ont été sauvés. Ces médecins étaient pleins de talent et se joignent à nous, l'épouse de Corey, Helen, qui était sa copine au lycée, et ses deux filles, Allison et Kaylee. Merci. À Helen, Allison et Kaylee, Corey vous regarde de haut et vous encourage. Il vous aime et il vous encourage. Corey nous a été pris beaucoup trop tôt, mais son destin était de nous laisser tous avec un exemple brillant
du dévouement d'un véritable patriote américain. C'est un amour tel que Corey qui a construit notre pays, et c'est un amour tel que celui de Corey qui rendra notre pays plus majestueux que jamais. Je pense que ma vie a été sauvée ce jour-là à Butler pour une très bonne raison. J'ai été sauvé par Dieu pour le bénéfice des États-Unis. C'est ce que je crois. Merci beaucoup. Les patriotes de Lexington et de Concord, les héros de Gettysburg, de la Normandie, les guerriers qui ont traversé le Delaware, aux pionniers qui ont escaladé les montagnes rocheuses, et aux aviateurs de Kitty Hawk et les astronautes sur la Lune, les Américains ont toujours été le peuple qui ont défié tous les arts, transcendé tous les dangers et fait les sacrifices extraordinaires et ont fait tout ce qui était nécessaire pour défendre nos enfants, notre pays et notre liberté. Et comme nous l'avons vu dans cette chambre ce soir, cette même force, ce même esprit, ce même amour reste vivant et se porte bien dans les cœurs des peuples américains. Malgré les efforts de ceux qui voudraient nous réduire au silence, nous détruire, nous empêcher de nous exprimer, les Américains sont maintenant un pays indépendant, libre et souverain qui sera toujours libre et nous allons combattre pour cette liberté jusqu'à la mort. Nous n'allons jamais rien laisser affecter notre pays parce que nous sommes des gens qui survivent, qui rêvent, qui agissons. Nos ancêtres ont traversé un grand océan, se sont lancés dans les inconnus et ont obtenu leur fortune dans cette frontière dangereuse. Ils ont poursuivi leur destin à travers un continent sans limite. Ils ont construit les voies ferrées, jeté les routes, posé les routes et ont construit des merveilles telles que l'Empire State Building, le barrage de Hoover et le pont du Golden Gate. Ils ont donné au monde l'électricité. Ont découvert l'aviation, ont vaincu les communistes, les marxistes et les fascistes du monde entier et nous ont donné des merveilles modernes faites d'acier et de verre. Nous sommes sur les épaules de ces pionniers qui ont construit l'ère moderne, ces travailleurs qui ont, grâce à leur transpiration, construit nos villes. Et qui combattent pour notre liberté. Et le moment est venu d'assurer le destin des États-Unis et d'entamer les jours les plus brillants de l'histoire de notre pays. Ce sera notre plus grande ère. Avec l'aide de Dieu au cours des 4 années à venir, nous allons pousser ce pays encore plus haut et nous allons forger le pays le plus libre, le plus avancé, le plus dynamique et dominant que le monde n'aura jamais connu. Nous allons créer la meilleure qualité de vie, construire la société la plus saine et les plus vibrantes du monde. Nous allons conquérir les frontières de la science et nous allons guider l'humanité vers l'espace et planter le drapeau américain sur Mars et au-delà. Et à travers tout cela, nous allons redécouvrir le pouvoir de l'esprit américain et nous allons renouveler la promesse sans limite du rêve américain. Au quotidien, nous allons nous lever et combattre pour le pays, le pays dans lequel croient notre citoyen, le pays que mérite notre peuple. Chers Américains, soyez prêts pour un meilleur avenir parce que l'ère d'or de l'Amérique ne fait que commencer. Ce sera mieux que ce que l'on a jamais vu. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis.
Voilà, c'était le discours du président américain Donald Trump sur sa politique générale après 6 semaines devant une session conjointe du Congrès. L'Amérique a retrouvé son élan, notre esprit est de retour, notre fierté est de retour, a déclaré Donald Trump. D'antan, Timothée Donagmaï, vous avez suivi ce discours, près de 2 heures de discours du président américain. Plusieurs sujets ont été passés au crible ce soir.
Et tout à fait, le président américain a fait le tour des grandes questions et comme je l'ai dit, je l'ai prédit, il a célébré la grande victoire des républicains aux élections de novembre et après cela, il a passé en revue toutes les grandes priorités de sa politique, notamment la politique d'immigration où il a dit que son gouvernement a pratiquement verrouillé la frontière et qu'on a enregistré le chiffre le plus bas d'entrée aux États-Unis. Depuis des années, des chiffres sans précédent. Il a aussi parlé de l'économie et il a expliqué sa décision d'imposer